Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute!
C'est une plante nuisible, une espèce indésirable, à l'origine de bien des maux. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, l'herbe à poux et les allergies qui en découlent.
Le rhume des foins, c'est une maladie qui est caractérisée par des symptômes de congestion nasale, d'écoulement nasal abondant, avec une démangeaison au niveau du nez. La caractéristique la plus importante, je devrais dire, de la fièvre des foins, ce sont les éternuements qui se manifestent souvent en forme de salve.
Un extrait d'Aujourd'hui la science en juillet 1985, alors que l'herbe à poux commence à fleurir. Particulièrement présente au Québec, elle a fait l'objet d'intenses campagnes d'éradication. Mais la plante est tenace, on la retrouve partout le long des routes et des trottoirs ou sur les terrains vagues. Quant aux allergies qu'elle provoque, elles ont donné lieu aux traitements les plus farfelus. Cocaïne, alcool, arsenic. Une industrie touristique s'est même développée autour du rhume des foins, de même que des théories complotistes.
L'herbe à poux est une plante qui pousse dans les villes, dans les terrains vagues. C'est une mauvaise herbe, en somme. Ça pousse le long des clôtures de bois, dans les terrains de stationnement. Ça vient à peu près 3 pieds de haut. Et au moment où la plante est prête à émettre son pollen, au mois d'août et septembre, c'est des petites coquilles qui s'en trouvent. C'est de couleur brun rouille. Le reste de la plante est verte.
Mm-hmm. Et alors, le pollen est dans ces espèces de petites coquilles que vous avez mentionnées.
Oui.
Bon. Il y en a énormément dans la province de Québec?
Il y en a énormément dans la province de Québec. La vallée du Saint-Laurent est un des endroits au monde où il y en a le plus.
Il n'y en a pas en Gaspésie, apparemment?
En Gaspésie, il n'y en a pas. Il y en a très peu dans les Laurentides. Il n'y en a pas en Europe. Maintenant, au bord de la mer, évidemment, sur la côte de l'Atlantique, il y en a. Mais quand le vent vient du large, il ne peut pas amener de pollen. Alors, la moitié du temps, il n'y en a pas.
Le docteur Claude Bic, au micro de Françoise Fauché, c'est à notre télé au mois de mai 1964. Alors pour nous en parler, mon invité, Claude Lavoie, il est biologiste, professeur titulaire, directeur de l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval. On le joint d'ailleurs dans nos studios à Québec. Bonjour.
Bonjour.
Alors je sais que vous préparez un livre sur le sujet à venir. Qu'est-ce qui vous passionne dans l'herbe à poux?
D'abord, c'est une plante qui se propage à vitesse grand V, non seulement dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, mais également en Europe, en Chine, en Australie et même en Afrique du Sud. Mais la principale raison, c'est parce que c'est la plante la plus nuisible pour la santé publique, puisque c'est la principale plante en ce monde qui est responsable de la principale allergie, ce qu'on appelle la rhinite allergique, ou plus communément connue sous le nom de rhume des foins.
Ouais. C'est quoi l'herbe à poux? Parce que souvent, on confond herbe à poux et herbe à puce.
Ça n'a absolument rien à voir entre les deux. Ça ne se ressemble même pas. C'est une plante. Donc, l'herbe à poux, c'est une plante annuelle. Donc, elle ne passe l'hiver que sous la forme de semences. Dans l'entrevue, on parle d'à peu près 3 pieds de haut. C'est exactement ce qu'il en retourne. Les feuilles ont une forme de plume, alors que l'herbe à poux, c'est un petit arbuste et qui cause, lui aussi, une allergie, mais sous la forme de dermatite. Donc, il n'y a pas vraiment de similarité entre les deux plantes, sinon par le nom.
Oui. Alors, dans le cas de l'herbe à poux, évidemment, ben, vous l'avez dit, ça provoque le fameux rhume des foins. À partir de quand, dans l'histoire, apparaît le rhume des foins?
On va commencer à en parler surtout au début du 19e siècle, mais dans ce cas-là, on va en parler en Angleterre, mais ce n'est pas causé par l'herbe à poux, parce qu'il y a d'autres plantes qui peuvent causer le rhume des foins, en particulier le pollen émis par les arbres et les graminées. Le tout premier qui va en faire une description convaincante des symptômes, il ne sait pas ce que c'est exactement, mais il va quand même les décrire, c'est un dénommé John Bostock. Lui, il est atteint du rhume des foins. En 1819, il va faire la description, mais il ne sait pas ce que c'est. Et il va émettre 2 hypothèses qui vont avoir la vie dure, là, qui vont durer presque 1 siècle. La première hypothèse, c'est que c'est à cause de la chaleur. C'est le retour de l'été. Alors, les gens sont toujours malades à la même période de l'année, donc au début du printemps, fin de l'été, ou début de l'été. Donc, c'est forcément à cause de la chaleur. Mais la deuxième chose qui aura beaucoup d'influence et qui ralentira le progrès des connaissances, c'est que pour lui, le rhume des foins, c'est une maladie de gens éduqués et civilisés. Et la raison est implacable, c'est que dans son cabinet, il ne reçoit que des gens éduqués, ce qu'il appellera lui-même des classes moyennes et supérieures. Il ne réalise pas que les gens de conditions plus modestes n'ont tout simplement pas les moyens de s'offrir les services de ses consultations.
Ben oui, c'est ça.
Et les gens modestes aussi, ça va ralentir aussi beaucoup le développement de traitement contre le rhume des foins, c'est que le rhume des foins n'aura personne, ce n'est pas une maladie mortelle et c'est passager. Donc, les gens de conditions modestes bien, endurent le problème sans consulter les médecins. Il n'en demeure pas moins que cette théorie-là de maladie de gens civilisés aura la vie longue et influencera aussi, d'une certaine manière, les traitements.
Oui, mais tout à fait. Donc, vous dites, pendant un siècle, on a pensé ça, que c'était une affaire de gens civilisés, éduqués, fortunés. Mais est-ce qu'on connaît à ce moment le phénomène des allergies?
Non, le phénomène des allergies, la première description, on ne sait pas exactement le mécanisme dans le menu détail, mais le phénomène des allergies ne sera reconnu de point de vue médical qu'en 1906. Donc, entre la découverte de Bostock en 1819 et la reconnaissance du phénomène de l'allergie en 1906, les médecins se dirigeront dans toutes sortes de directions. Et ça aura une influence majeure sur les malades, puisqu'on leur proposera des traitements qui n'ont aucun sens. Ce n'est qu'en 1870 qu'un autre médecin qui s'appelle Charles Blackley, qui lui va faire une adéquation très nette entre le pollen émis par certaines espèces de plantes et le rhume des foins. Malheureusement, sa découverte va passer inaperçue. Pourquoi? Parce qu'elle coïncide avec les travaux de Louis Pasteur et de ses collègues, avec la découverte des micro-organismes. Donc, tous les médecins de l'époque vont orienter leur recherche sur les microbes et ça aura un effet global sur la santé publique. Mais ce n'est pas un microbe qui cause le rhume des foins, c'est le pollen.
Oui, bien,
à l'époque, on ne comprend pas. Même Charles Darwin va écrire une lettre dans laquelle il va avouer son scepticisme. Il ne comprend pas que des particules aussi minuscules que le pollen peuvent rendre les gens aussi malades. Donc, le développement de traitements va prendre beaucoup de temps.
Oui, parce que le phénomène de l'allergie et du rhume des foins, il sera bien connu plus tard. En tout cas, il l'est bien connu au début des années 60. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. À preuve, cet extrait du botaniste Auré Blain, c'était à notre radio le 3 août. 1961.
Est-il exact qu'il y a des gens qui souffrent plus de la fièvre des foins que d'autres?
Évidemment, cette fièvre de foin, c'est une réaction allergique. Et comme toutes les réactions allergiques, il y a des individus qui en souffrent légèrement, il y en a d'autres qui en souffrent gravement.
Mais il y a des gens qui peuvent même manger de l'herbe à poux sans souffrir, je suppose.
Bien sûr. Bon, manger pourrait peut-être ne pas aller jusque-là, mais se contenter d'en respirer abondamment, parce que c'est par les voies respiratoires surtout que la réaction allergique se produit. Évidemment que pour causer une fièvre de foin, il faut deux choses. Il faut d'abord que l'individu humain ait dans son bagage héréditaire les gènes voulus pour répondre positivement à l'attaque de la toxicité des pollens.
Donc, on connaît le phénomène à ce moment-là, on connaît la cause, l'herbe à poux, vous l'avez évoqué, ça va influencer toutes sortes de traitements. Comment on traite la maladie? Qu'est-ce qu'on propose à l'époque pour soulager les patients ou atténuer les symptômes?
Au début, on va proposer des choses inefficaces, mais somme toute pas désagréables. Le whisky sera en particulier une substance très fréquemment prescrite. Bien, évidemment, elle n'a aucun effet. Ce qui aura un peu plus de qui causera plus de problèmes, c'est la cocaïne. La cocaïne sera une substance très fréquemment prescrite, surtout à la fin du 19e siècle, et on va la prescrire sous la forme de vaporisateur nasal. Alors, tout le monde sait ce qui arrive lorsqu'on prend de la cocaïne à répétition, on engendre une dépendance, et le problème sera à ce point grave que la ville de Chicago, au début du 20e siècle, sera obligée de prendre des mesures draconiennes pour empêcher la vente de cocaïne, tellement elle aura été prescrite par les médecins et tellement les cocaïnomanes seront nombreux dans la ville. Il y aura aussi d'autres médicaments, entre guillemets, qui seront prescrits, en particulier des poisons violents, l'arsenic, la belladone, la strychnine. Ils sont toujours prescrits en petite quantité. Malheureusement, il y a des gens qui vont excéder la dose et qui vont en mourir. Il y a des témoignages de cela dans les journaux. Ça, c'est pour les traitements très sévères. Il y en a d'autres qui sont plutôt rigolos. Par exemple, au début du 20e siècle, certaines personnes vont trouver refuge dans des chambres froides. Ils vont sortir parfois avec des engelures assez sévères, mais au moins, ils auront eu la paix au niveau des poumons. Ce qui est très drôle, c'est qu'en 1910, il y a un hôtel new-yorkais qui va offrir à ses clients l'accès à son cellier réfrigéré pour justement soulager les gens. Mais à un moment donné, le propriétaire de l'hôtel va devenir suspicieux parce qu'il va se rendre compte que finalement, les gens sont pas mal plus intéressés par le vin du cellier que par le froid de cette chambre froide. On trouvera dans les années 30 des concours d'éternuement dans la ville de New York. Alors, plus on éternue fort, plus on risque de gagner un prix. Et quel est le prix? C'est qu'on va vous offrir la possibilité de faire un tour d'avion d'à peu près une heure ou deux qui va vous mettre dans une position au-delà des nuages de pollen. Ah, tout ça de traitement
farfelu,
aussi inefficace. Ah oui, c'est tout à fait farfelu. Les charlatans temps vont aussi, on peut s'en douter, se mettre de la partie. C'est absolument hallucinant dans les journaux de voir la quantité de remèdes miracles qui sont produits. Et c'est toujours le même scénario. Il y a toujours des explications farfelues qui sont proposées quant à la cause de la maladie. On n'explique jamais le principe actif. Il y a toujours des tonnes de témoignages qui disent que c'est un remède miracle appuyé par des spécialistes, etc. Il faudra aux États-Unis, en 1906 notamment, émettre une loi pour interdire la vente de ces produits-là, tellement ils font, sinon ils sont sinon efficaces, du moins ils font des ravages dans la population. Et évidemment, vous avez toutes sortes de machines, des masques électriques, des lampes ultraviolets.
Ah ben oui, des équipements modernes, ça, là, c'est ça.
Ben effectivement, et tout ça fait en sorte que ça va ralentir la découverte de médicaments. Il faudra attendre en 1903 pour le premier remède qu'on jugera efficace, mais qui est tout à fait inefficace par ailleurs, qui s'appelle le Polantine. C'est du sérum de cheval. On imaginait que les chevaux qui ne souffrent pas du rhume des foins, ben c'est parce qu'ils ont développé une antitoxine contre le pollen. Donc, on va injecter le sérum de chevaux dans les yeux de patients, ce qui est tout à fait inefficace, mais il va même engendrer des réactions allergiques sévères. Des gens vont en mourir. Ah. Alors, il faudra beaucoup de temps pour trouver les premiers vrais remèdes, qui sont les antihistaminiques, qui seront mis en marché en 1946.
Oui, tout à fait. Et il y a même, bon, vous avez dit, il y a des concours, on organise des voyages en avion, en tout cas, une petite tournée en avion, pour s'aérer les poumons, mais il y a même une industrie touristique là, qui va se développer autour de l'herbe à poux.
Oui, on a peine à l'imaginer, mais entre 1870 et 1950, l'industrie touristique va beaucoup tabler sur la fièvre des foins ou rhume des foins, mais également sur la malaria. C'est particulièrement vrai dans le nord-est de l'Amérique du Nord et également dans les États du Midwest. Si vous consultez les publicités des hôtels de l'époque, il y a beaucoup d'hôtels québécois qui vont embarquer là-dedans. L'hôtel Tadoussac, le manoir Richelieu, le St. Lawrence Hall à Kakuna, qui est aujourd'hui disparu, etc., vont mettre de façon systématique dans leurs publicités toujours en anglais, ça s'adresse vraiment à une clientèle anglophone et américaine. Mm-hmm. No hay fever, pas de fièvre des foins. On vous garantit que vous allez avoir la paix si vous venez chez nous. Et on va même aussi ajouter pas de malaria, parce que la malaria va faire souffrir les gens. Et cette industrie sera extraordinaire. Il y a un petit village au New Hampshire qui s'appelle Bethlehem qui verra sa popularité célèbre parce que c'est en altitude. Et à une certaine époque, jusqu'au mois de fin août, début septembre, vous avez 2000 personnes qui vont fréquenter ce village-là. Et c'est une clientèle qui est très recherchée parce qu'elle est fortunée, évidemment. Mais d'autre part, ils font des séjours très longs parce que la saison du rhume des foins, c'est très long. Hein?
Ben c'est oui, c'est ça. C'est pas 48 heures. Là.
Effectivement. Donc, il y a toute une industrie qui va se développer là-dessus. Elle va, malheureusement, pour les hôteliers, s'effondrer à partir des années 50 parce que là, il y a des médicaments efficaces sur le marché et les gens seront davantage motorisés. Le motel va se développer hôtels de facture plus classique seront beaucoup moins populaires à cette époque.
L'endroit où on va passer l'été où on s'y installe pour quelques mois, périclétant. Mais bon, vous avez évoqué cet endroit au New Hampshire, les White Mountains, très populaire. Puis chez nous également, l'hôtel Tadoussac, Charlevoix. Et ce sera le cas de la Gaspésie, entre autres. Alors, pour preuve, cet extrait de 1935, c'est un film de l'abbé Proulx tiré des Archives nationales du Québec.
En outre d'être un endroit touristique extrêmement attrayant, la Gaspésie a la réputation bien établie et confirmée par les savants d'être un refuge assuré contre la fièvre des foins. Or, la plupart du temps, cette maladie tenace est causée par l'herbe à poux. Autant pour préserver le pays de l'envahissement de cette mauvaise herbe que pour faire disparaître les très rares colonies qu'on y a découvertes, le ministère de l'Agriculture de la province a pris l'initiative d'y déléguer M. Elzéar Campagna de l'École supérieure d'agriculture de Saint-Anne-de-la-Focatière afin d'y organiser parmi les enfants des écoles et avec le concours des institutrices une campagne d'éducation contre la pénétration de cette plante nuisible.
Extrait d'un film donc de l'abbé Proulx, 1935, c'est impressionnant. Puis on y présente Elzéar Campagna, botaniste, agronome, et c'est lui qui se met en tête là, d'éradiquer la plante, bon, je dirais pas de la Gaspésie, parce que le territoire est immense, mais d'un petit territoire, parce que lui-même en souffre aussi du rhume des foins.
Non, il ne souffre pas de la...
Non,
c'est son mentor de l'Université Cornell, où il est effectué un séjour, qui en souffre et qui lui suggère d'aller faire un tour en Gaspésie pour voir ce qu'il en est. Et il parviendra effectivement à éradiquer de la Gaspésie, mais pas juste de la Gaspésie, mais également une bonne partie du Bas-Saint-Laurent, à l'est de Rivière-du-Loup, l'herbe à poux. Il est assez remarquable parce qu'il est la seule personne à avoir fait ça.
Et comment il fait?
Ah, bien, il va s'y prendre? D'abord, il va être armé de 15 assistants qui vont parcourir la péninsule pour arracher tout ce qu'ils vont trouver. Mais il va vite se rendre compte qu'il n'arrivera pas au bout parce que ce n'est pas suffisant. Donc, il va mettre à contribution les enfants des écoles. Il y a 5500 étudiants, enfin, enfants gaspésiens et leurs institutrices qui vont autour des villages partir des journées complètes pour arracher l'herbe à poux. Ce qui fait en sorte qu'en 1950, l'herbe à poux est définitivement éradiquée de la Gaspésie, ce qui est un exploit remarquable considérant qu'il n'y a pas d'herbe qui a été utilisé pour arriver à cette performance.
Ah oui, impressionnant. Bon, on va l'écouter nous en parler lui-même beaucoup plus tard. Ça, c'est en 1971, au mois d'août 1971, à l'émission Réseau Soleil.
Il faut détruire les plantes. Hein? Et puis, ça ne se détruit pas dans une année. La destruction de l'herbe à poux, il faut faire ça pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, parce qu'il y a des graines dans le sol, hein, qui vont germer l'année suivante. Mais c'est le moyen de détruire. Et ici, le Québec a été ici un exemple plusieurs fois pour le travail qu'il faisait pour cette région-là, surtout la région touristique du Québec. À Montréal, la ville de Montréal a fait beaucoup de travail aussi, pendant peut-être 8 ans. Ils ont détruit l'ambroisie dans plusieurs quartiers. Autrefois, vous pouvez me demander comment ça se fait qu'il y a de l'herbe à poux à Montréal ou de l'ambroisie. Là. C'est parce qu'autrefois, les familles gardaient des volailles. Hein. Chaque famille avait ses poules et son coq. Alors, ils emportaient du grain. Puis quand le grain commençait à venir de l'Ouest, c'est là qu'on infestait la ville de Montréal. Parce que dans l'Ouest, ils en avaient dans certaines régions. Maintenant, une fois, une personne m'a demandé, souvent on me demande, « Vous me dire, est-ce que je pourrais aller manger la fièvre des foins ici, à quelle période? » Où pourrais-je aller pour être exempt de ça? Bien, une fois, là, je lui ai dit, je l'ai envoyé au Mont-Albert, en Gaspésie, dans le bois.
Oui, bon, encore faut-il avoir les moyens puis le temps. Hein. Ça fait loin partir de Montréal pour aller au Mont-Albert dans le bois. Mais bon, effectivement, il y a eu des... ça a fonctionné en Gaspésie. Ça s'est fait aussi en ville, lui-même le dit. Là. Il y a eu des campagnes d'éradication à Montréal.
Oui, mais ça va prendre du temps. Dans les années 30, certaines villes américaines vont mettre à profit les chômeurs pour se débarrasser de l'herbe à poux. C'est particulièrement vrai à New York et à Chicago. En 1932, il y a 1300 chômeurs qui vont arracher chaque jour l'herbe à poux, ce qui est quand même assez remarquable quand on y pense. Avec la Deuxième Guerre mondiale, les chômeurs vont retourner dans les usines. Ça va un peu se calmer. Mais à Montréal, les journalistes de l'époque vont beaucoup reprocher à la ville de ne rien faire contre l'herbe à poux, même un journaliste qui va dire que la plante est à veille de devenir l'emblème floral, qu'on devrait l'ajouter au drapeau de la ville. Alors, il y a une journaliste, c'est assez particulier, une journaliste s'appelle Germaine Bernier. Elle est responsable des pages féminines du Devoir du milieu des années 30 jusqu'à milieu des années 60, qui va faire la promotion elle va inviter les enfants à s'investir dans cette lutte-là parce qu'elle est inspirée par ce que Elzéar Campagna a fait en Gaspésie. Et entre 1945 et 1947, vous allez avoir parfois certains étés jusqu'à 1900 enfants qui vont parcourir les parcs de la ville pour arracher de l'herbe à poux. Imaginez, en 1945, par exemple, ou en 1946, pour être plus précis, il y a 83 000 kilos d'herbe à poux qui seront arrachés par des enfants, ce qui est quand même assez remarquable. Ils seront récompensés en septembre par une cérémonie au Jardin botanique de Montréal en présence de son honneur Camillien Houd, qui viendra décerner des prix, etc. Oui, et même le nom des jeunes qui récoltent de l'herbe à poux en quantité astronomique. Par exemple, le petit Maltais, en 1945, va avoir arraché quelque chose comme 4 000 livres d'herbe à poux, ce qui est absolument hallucinant. Et en 1947, les enfants vont être tassés. On va les évacuer du portrait. Pourquoi? Parce que là, on va utiliser un herbicide qui s'appelle le 2,4-D. Et ça ne va pas se faire uniquement à Montréal, ça va se faire partout en Amérique du Nord. Enfin, plutôt dans le nord-est de l'Amérique du Nord, où se trouve l'herbe à poux. Et les quantités d'herbicides qui vont être utilisées sont hallucinantes. À New York, par exemple, en 1947, on va pulvériser dans les terrains de la ville jusqu'à 3,7 millions de litres de 2,4-D. On va faire la même chose à Montréal. En 1946, on va asperger plus de 15 000 terrains vagues avec ça. Et on prédit à l'époque que grâce à cet herbicide-là, cette nouvelle solution miracle, dans 1 ou 2 ans, l'herbe à poux aura disparu de la ville. 2 ans plus tard, on dit, ça sera plutôt dans 3 ou 4 ans. Un petit peu plus tard, dans 10 ans. Un peu plus tard, on va dire, on aperçoit le jour où ça va devenir une réalité. Et on se rend compte un peu partout en Amérique du Nord que cette solution-là ne fonctionne pas.
Oui,
pourquoi? Ben pourquoi? Parce que tout simplement, c'est très mal fait, pour commencer. Les gens, les employés municipaux ne reconnaissent pas l'herbe à poux, donc ils aspergent n'importe quoi.
C'est ça.
Effectivement. Et que font-ils dans en définitive? C'est qu'ils font le travail seulement à moitié, mais aussi, ils vont créer des espèces de terres désolées, parce qu'ils arrosent tout. Or, les terres désolées, c'est le terreau propice à la croissance de l'herbe à poux. Donc, l'herbe à poux va réinvestir ces milieux-là. Et c'est assez drôle, parce que vers la fin des années 50, Claude Robillard, qui était le premier directeur du service des parcs de Montréal, va redemander aux enfants. Lui, il espère que 30 000 enfants viendront bientôt arracher l'herbe à poux. Ça ne fonctionne pas. En 1958, la lutte avec des herbicides est définitivement abandonnée. Et qu'est-ce qu'on dit aux gens, finalement? Prenez des pilules, prenez des antihistaminiques pour vous soulager. On ne viendra pas à bout de l'herbe à poux.
Ouais. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce que la plante, elle s'est répandue ailleurs. On disait l'Amérique du Nord, le nord-est des États-Unis, le Québec, l'Ontario, terre eau fertile, mais maintenant, c'est un peu partout.
Oui, et ça fait déjà un bon moment, d'ailleurs. En Europe, la plante est introduite vers le milieu du 19e siècle, mais plus récemment, elle se répand maintenant à vitesse grand V. Parce qu'on a introduit des fourrages, donc comme contaminant dans les fourrages ou comme contaminant dans les grains. La Chine est le principal foyer d'expansion à l'heure actuelle de la plante. Il y a déjà 15 millions de personnes qui souffrent du rhume des foins en Chine. Et avec le réchauffement du climat, la situation va se détériorer un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, au début du 20e siècle, il y a environ 1 % des gens qui souffrent de rhume des foins. On estime maintenant que dans certaines régions du monde, ça peut atteindre 20 %. Il y a plusieurs choses qui expliquent cela, notamment parce que l'herbe à poux et d'autres plantes qui produisent du pollen allergène en produisent de plus en plus parce qu'ils sont plus répandus, mais aussi parce que le climat se réchauffe. Comme le climat se réchauffe, la saison pollinique est de plus en plus longue. Elzéar Campagnac, qu'on a entendu tantôt, enregistre, fait le décompte des grains de pollen en 1941 à Montréal et estime que la durée de la saison du rhume des foins causée par l'herbe à poux dure à ce moment-là 24 jours. Aujourd'hui, dans les pires années, ça peut durer jusqu'à 90 jours. Alors, vous voyez que, évidemment, comme la saison se prolonge, de plus en plus de gens sont malades et sont malades de plus en plus longtemps. Maintenant, ça peut commencer dès la mi-juillet et ça peut se poursuivre jusqu'à parfois la fin octobre parce que ce qui tue l'herbe à poux l'automne venu, ce sont les premiers gels. Oui. Alors, les premiers gels sont maintenant de plus en plus tardifs.
Oui, tout à fait. Et pendant cela, il y a beaucoup de monde qui en souffre. Hein, vous l'avez dit, environ 20 % de la population qui souffre du rhume des foins. Donc, au Québec, ça veut dire entre 1 et 2 millions de personnes à des degrés divers, bien sûr, mais ça fait beaucoup de monde et ça a même inspiré une chanson. On va l'écouter, on va se laisser là-dessus. Jenny Rock et Normand Brathwaite, l'émission Cadillac Rose en 1997 à notre télé. Mon invité, je rappelle, Claude Lavoie. Il est biologiste, professeur titulaire, directeur de l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
Je vous en prie.
Merci. Voilà, ici Maxime Coutier. Merci à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Bonne soirée. Au revoir.
Pour quelques jours, elle fleurira. Je ne peux pas.
On la voit dans les parcs, dans les rues. Les cols bleus ne l'arracheront plus. L'herbe à poux n'arrête pas de pousser. Grâce au vert géranium premier.
Do you, do you?
L'herbe à poux.
Do you, do you?
Un peu partout.
Qui nous fait tous faire happy chou.
Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.